Figaro Radio.
Le Buzz TV.
Damien Canivez.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce plateau du Buzz TV. Aujourd'hui, nous accueillons dans ce studio une présentatrice qui rend très régulièrement hommage à ses agents dont l'engagement ne vise qu'un seul objectif, nous protéger. Cette journaliste a fait ses premiers pas aux États-Unis chez CNN, elle est passée par la rédaction d'iTélé et désormais c'est au sein du groupe M6 qu'elle évolue, plus précisément sur W9 où elle présente une émission très ancrée dans le paysage audiovisuel et dont le succès ne se dément pas. Bonjour Marie-Ange Casalta.
Bonjour Damien.
Bienvenue sur le plateau du Buzz TV. Merci. Émeute, stupéfiant, violence, nuit chaude pour la police de Creil. Voilà, c'est le titre.
Venez travailler chez Enquête d'Action, vous êtes parfait.
Je peux faire la bande-annonce si vous voulez. Je suis très cher par contre.
Alors là, c'est sûr qu'on ait les moyens.
Alors c'est le titre du nouveau numéro d'Enquête d'Action. Vous avez suivi plusieurs policiers qui évoluent dans cette commune de l'Oise. Ça fait 18 ans, vous. Ça fait 18 ans que cette émission existe. Vous, vous la présentez depuis 16 ans. Vous suivez pas uniquement les policiers et gendarmes, vous suivez également le SAMU, les pompiers. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'avoir fait un petit peu le tour de la question après toutes ces années d'antenne ?
Eh bien non, pas du tout. C'est vrai qu'on me pose parfois les questions, mais pas du tout parce que justement, l'émission, elle est très variée de par sa nature. Puisque nos caméras, ce qu'on fait, nous, c'est que nos caméras suivent donc ces personnels, ces professionnels qui sont dans l'action. Vous le disiez, ça peut être des médecins, des gendarmes, des policiers d'élite.
Ouais.
Et en fait, quand on les suit, on se rend compte qu'aucune journée ne ressemble à une autre. Et c'est justement ce que nous disent toujours les policiers, les gendarmes. Je me lève le matin et ce que j'aime dans mon métier, c'est que je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas. Et ils vont souvent de surprise en surprise. Et nous, d'ailleurs, dans chaque numéro d'Enquête d'Action, il y a une séquence qui nous surprend. Nous-mêmes, on se laisse surprendre. On se dit, c'est pas possible, il leur est arrivé ça. Des choses vraiment improbables. D'ailleurs, il y a une séquence d'ailleurs, dans le sujet sur Creil, notamment. Donc non, on ne se lasse pas. On ne se lasse pas, et d'ailleurs le public ne se lasse pas, puisqu'il est toujours au rendez-vous après autant d'années, vous le disiez.
Et est-ce que c'est grâce aux personnalités que vous suivez que vous parvenez quelque part à vous renouveler? Parce que le risque, c'est ça, c'est de tourner un petit peu en boucle autour des mêmes sujets. C'est vrai que vous suivez un policier municipal telle semaine, la semaine suivante, ça va être un policier national, mais quelque part, ils vont être confrontés plus ou moins aux mêmes problématiques. Ce qui est intéressant dans votre émission, c'est vraiment aussi l'humain, c'est cet aspect-là.
Et alors, c'est sûr que l'émission, elle a vraiment évolué au fil des années et on avait vraiment à cœur, justement, de donner une place plus importante à l'humain. Au début, dans Enquête d'Action, on s'intéressait surtout au factuel, voilà. On suivait, on filmait. Et on ne donnait pas trop la parole aux policiers. On filmait l'action, voilà, c'était la promesse vraiment de départ. Et on a eu à cœur de changer ça parce qu'on s'est rendu compte, notamment en allant sur le terrain, en tournant les plateaux sur le terrain, que ces policiers étaient des mères de famille, des pères de famille, qu'ils avaient des choses à dire. Ouais. Et donc, du coup, on essaie de leur donner le plus souvent maintenant possible la parole. Et ça, je pense que ça a donné une autre dimension à l'émission.
Exactement. C'est Et c'est passionnant. On va y revenir dans quelques instants avec vous, Marie-Ange Casalta. On va également parler de vos projets et du cinéma, parce que vous avez aussi un pied dans le 7e art. On va y revenir dans quelques instants. Mais tout d'abord, on va découvrir les news médias du jour. Allez, on commence les infomédias avec Vincent Niclot qui est enfin parvenu à fouler le plateau de C'est à vous. C'était ce mercredi 29 mars. Le chanteur lyrique s'est plaint quelques jours plus tôt sur notre plateau. Il était à votre place que certaines émissions ont refusé de l'accueillir. Quotidien, Taratata, C'est à vous. Il émettait l'hypothèse que peut-être il n'était pas vraiment dans la ligne éditoriale de ses programmes télé. Finalement, le talk show animé par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5 a décidé de corriger le tir en le recevant autour de la table, au terme d'une séquence qui était très drôle par ailleurs, animée par Bertrand Chameroy. Le visage de C'est à vous a organisé une retrouvaille façon « il n'y a que la vérité qui compte hein, », vous savez, avec Anne-Elisabeth Lemoine et Vincent Niclot de part et d'autre d'un grand rideau. Après un discours de l'animatrice aux saveurs de mea culpa, le chanteur a accepté d'ouvrir le rideau et de rejoindre les invités qui étaient déjà installés. Tout est bien finalement qui finit bien hein, pour Vincent Niclot. Alors peut-être va-t-il recevoir dans quelques jours un appel de quotidien. En tout cas, on y sera très attentif. Alors c'est vrai, vous, Marie-Ange Casalta, vous êtes assez rare en promo. Est-ce qu'il y a des plateaux où vous rêvez d'aller aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des émissions, peut-être c'est à vous parce que vous regardez cette émission, ou quotidien, où vous aimeriez bien aller pour parler de votre émission?
Je pense que toute promo est bonne à prendre.
Ouais.
Après, Enquête d'Action, c'est une émission qui roule, comme on dit, comme elle existe depuis longtemps et qu'elle marche très bien. C'est vrai qu'on ne met pas trop l'accent sur la promo parce que finalement, on n'en a pas trop besoin.
Oui, c'est vrai
mais,
que ça fonctionne
mais
bien,
je suis toujours heureuse. Ouais. Tous ceux qui veulent m'inviter pour parler de nos numéros, de notre actualité, ce sera avec grand plaisir, bien sûr.
Et qu'est-ce que vous regardez, vous, à la télévision, d'ailleurs, quand vous n'y êtes pas?
Alors moi, je ne regarde pas énormément la télévision, je dois le dire, parce que je suis très prise. Je travaille en télévision déjà, donc c'est mon métier. Donc
c'est
déjà, je regarde beaucoup de télévision pour mon travail. Tous les sujets et puis maintenant effectivement je travaille aussi dans le cinéma, je produis des films depuis un certain nombre d'années, J'ai deux enfants qui sont encore petits, 6 et 8 ans, et j'essaye d'être très présente pour eux. Donc, du coup, voilà, les journées passent très, très vite. Je vous assure, je me couche tous les soirs et je me dis, mais où est passée la journée? Et puis, nous, on a nos bureaux dans l'immeuble où on habite, mon mari.
D'accord.
Donc, du coup, le travail fait aussi partie de notre quotidien.
Ah, mais c'est facile de mettre une ligne entre la vie pro et la vie perso lorsque le bureau se trouve dans le même immeuble.
Ce qui est très sympa, c'est que les enfants sont souvent au bureau. Ouais. Donc, vous voyez, par exemple, hier, on a reçu Thierry Lhermitte et Miu Miu au bureau. Et on dit aux enfants, ne venez pas. Mais vous êtes pas à l'abri. François-Xavier de Maison était là hier soir pour voir justement le court-métrage que j'ai réalisé dans lequel il joue. Et les enfants ont débarqué. Il me dit, mais c'est sympa, c'est chouette, il y a toujours un gamin qui saute sur un canapé.
Ah oui, mais au moins c'est convivial.
Donc c'est très convivial, voilà. Et ça nous permet, nous, de profiter, mon mari et moi, de profiter de nos enfants, de notre vie de famille et de faire aucun sacrifice.
Bon, ben voilà, ça c'est une bonne idée, quelque part.
Oui, ça nous réussit.
On poursuit ces infos avec tout autre chose. Le tournoi Roland-Garros, France Télévisions et la plateforme Amazon Prime poursuivent leur partenariat avec la Fédération française de tennis. Les deux médias continueront à se partager les droits de diffusion jusqu'en 2027. Alors, eux qui retransmettent d'ailleurs cette compétition depuis 2021. Le groupe audiovisuel public filmera en direct et en intégralité la totalité des matchs masculins et féminins qui se dérouleront en journée, y compris aussi les rencontres qui se déroulent sur le court Simone Mathieu. Amazon Prime conserve quant à elle les matchs qui ponctueront les soirées de Roland-Garros, c'est-à-dire les 11 sessions nocturnes qui se tiendront sur le court Philippe Châtrier. En ce qui concerne les demi-finales et la finale, eh bien, ce seront des codiffusions. Elles seront donc sur France Télévisions et également Amazon Prime. Alors, c'est vrai qu'on vous voit toujours dans ces habits très chics de présentatrice, mais est-ce que de temps en temps, vous mettez un jogging? Est-ce que vous êtes une grande sportive, vous, Marie-Ange Casalta?
Alors, je veux dire, je mets des joggings, mais pas forcément pour faire du sport.
Ah, d'accord, ça, c'est la détente
moi,
du week-end.
J'adore le jogging. Ou même du réseau la semaine, parfois. Non, moi, je suis très vêtements confortables. Voilà, je trouve que... Justement, et surtout, je trouve que nous, les femmes, on a beaucoup de pression, les talons, même les soutiens-gorge, beaucoup de choses qui emprisonnent le corps féminin. Et je pense qu'il est temps de se libérer de tout ça. Voilà,
donc, vous êtes plutôt détente le week-end, en fait, c'est ça.
Enfin, même, je trouve que le reste de la semaine, j'ai envie de dire à toutes les femmes, allez travailler sans maquillage, allez travailler en basket. Ouais. Voilà, libérez votre corps, ça fait vraiment du bien. Sinon, je fais un petit peu de sport, pas autant que j'aimerais. Ouais. J'aimerais me mettre au paddle. Je ne sais pas si vous faites du paddle.
Le paddle,
Le paddle.
Oui, le paddle, c'est super. C'est le fait de frapper une balle sur un mur, je crois.
Voilà, exactement. c'est un peu comme le squash. C'est très à la mode. Il paraît que c'est très chouette. Non, moi, je fais du yoga.
Ah, du yoga, oui.
C'est du sport.
C'est une forme de sport. Pour la souplesse, c'est parfait, il paraît.
C'est parfait pour tout, le yoga. C'est extrêmement. Et c'est, je pense, l'activité la plus complète, puisqu'elle fait travailler vos articulations, vos organes, absolument tout le corps.
C'est pour ça que vous êtes si zen, alors. Voilà. Allez, on termine ces infomédias avec le chiffre du jour, c'est 825 et c'est en milliers le nombre de téléspectateurs qui ont assisté à la 9e édition des Duos Impossibles de Jérémy Ferrari sur C8. Et si on compare ce chiffre avec la précédente édition, cette émission d'humour signe une hausse de 62 000 curieux tout de même. Alors, on va parler aussi de vos audiences. En quête d'action, depuis septembre 2022, ça a touché 31 millions de Français tout de même, c'est pas rien. Quelle est l'audience par numéro à partir de laquelle vous dites satisfaite? Est-ce qu'il y a un seuil d'audience en dessous duquel vous êtes vraiment déçu?
C'est un peu le million.
Ah, voilà. C'est le million, d'accord. Le million, ça, c'est le fantasme, d'accord?
Non, le million, c'est bien. Le million, c'est bien, on est content. Le million, c'est bien.
Ouais. C'est bien, mais c'est même très bien sur une chaîne de
TNT. Le million, c'est très bien, oui.
Et c'est vrai que vous l'atteignez assez régulièrement, mais après tant d'années, comment expliquez-vous que cette émission fasse autant de scores? C'est vrai que généralement, on a l'habitude de recevoir des animateurs sur ce plateau dont l'audience, mécaniquement, baisse parce que c'est la tendance de la télévision aujourd'hui. La vôtre, elle fonctionne encore très, très bien. On a l'impression qu'elle est immortelle.
On a beaucoup de chance. Immortelle, je le souhaite. Non, mais vous savez, Enquête d'Action, c'était le premier magazine de la TNT à exister sur la TNT. Donc, c'est un magazine historique. On a eu cette chance d'être les premiers. Mmh. Et je pense que, du coup, dans l'esprit du public, on est un peu un magazine un petit peu à part, puisqu'on était les premiers, le premier magazine tout court et évidemment le premier à faire ce style de reportage. Donc, on est un peu la maison mère, quoi, la maison mère des magazines sur la TNT. Et je pense qu'aussi, le magazine a su se renouveler. Ça, c'est très important. Dans un style comme ça, il faut savoir se renouveler. Dans son traitement, dans la rédaction, c'est toujours renouvelé. On se remet constamment en question.
Alors, vous présentez, donc, je le rappelle, un nouveau numéro du magazine Enquête d'Action. Vous avez suivi la police de Creil. Oui. Déjà, question toute simple, pour quelle raison la police
Pourquoi Creil,
c'est ça?
On a tiré au sort. Non, je plaisante.
Vous avez un saladier comme ça, avec toutes les communes de France.
Non, je vais vous dire pourquoi Creil. Creil, c'est une des villes les plus pauvres de France, avec un taux de pauvreté, il me semble, de 38%. C'est une des villes où la délinquance est en hausse. Les violences familiales ont augmenté de 28% sur un an. Les violences volontaires de 8%. Les cambriolages augmentent. Les vols à la roulotte augmentent. Bref, tout augmente et le trafic de drogue, notamment, est à son paroxysme. Il y a 180 policiers à Creil et parmi eux, une dizaine de policiers de la BAC. Et on a voulu s'intéresser à eux tout particulièrement, ces policiers de la brigade anticriminalité, oui, qui sont spécialistes des missions les plus dangereuses, hein, les plus ardues. Et donc, on les a suivis et on a essayé de comprendre un petit peu la situation à Creil, comment on est arrivé là et à quoi ressemblait vraiment le quotidien des policiers, mais aussi des habitants de Creil, ouais, les habitants de Creil. Et on a compris les chiffres en allant sur place, puisqu'effectivement, il y a un climat très tendu, un climat de violence, notamment dans certaines cités sensibles, qui est assez effrayant.
Justement, à quel genre d'affaires vont-ils être confrontés, ces policiers de la BAC, devant vos caméras ?
Alors, notamment l'arrestation en pleine nuit d'un caïd dans une cité. Ouais. Et donc, les policiers s'y rendent, ça dégénère totalement. Ils se font caillasser, comme souvent. Ils reçoivent des tirs de mortier et la scène. Et ça dure une bonne partie de la nuit. C'est ça qui est assez incroyable. Et quand vous regardez cette séquence, vous avez l'impression qu'on est en guerre.
Oui, absolument.
C'est vraiment vrai. Ça. Vous l'avez vu.
Oui, absolument. Ça pétarade de partout. C'est assez impressionnant.
Ouais. Ensuite, à un moment donné, ils se retirent. Ça va mieux. Et là, les délinquants brûlent des poubelles.
Ouais.
Et donc, ils brûlent des poubelles pour faire venir les pompiers. C'est toujours ça, hein, c'est pas juste pour brûler des poubelles. Ouais. Ils savent que cela va attirer les pompiers. Les pompiers viennent pour éteindre les feux, protéger les habitants, bien sûr. Et donc là, ils agressent les pompiers, caillassent les pompiers, et la police escorte les pompiers. Donc qui dit pompiers dit forcément policiers, puisqu'ils sont obligés d'escorter les pompiers. Et là, ils agressent les policiers. Et donc ça dégénère totalement.
Quand vous assistez à ça, je vais vous demander un sentiment très personnel, mais quels sont les sentiments qui vous envahissent ? Parce que c'est vrai qu'on a ce constat très froid de ces caïds qui vont agresser des forces de l'ordre, des pompiers qui sont employés pour aussi nous sauver quelque part, et ils se font malmener sur le terrain. Quand vous voyez ça, quelle est votre réaction ?
Je pense vraiment que mon émotion première, c'est la tristesse.
Ouais.
Parce que ces gens-là, je les connais, je les côtoie au quotidien. Ils ont des vocations à toute épreuve. Ils ne gagnent pas très très bien leur vie. Ouais. Ils ont des métiers dangereux. On le voit dans le sujet, les noms de famille de certains policiers sont écrits au graffiti sur les murs des cités. Donc ces policiers se sentent souvent en danger. On peut les retrouver. Les délinquants savent qui, ou dans quelle école vont leurs enfants. Ouais. Vous voyez, donc c'est vraiment très stressant. Et donc beaucoup de policiers aujourd'hui sont obligés de vivre loin de leur lieu de travail pour ne pas qu'on les retrouve, justement. Voilà. Beaucoup de policiers, de jeunes policiers, vont me dire aujourd'hui, alors qu'avant ils me disaient mes parents sont très fiers de ce que je fais, aujourd'hui ils me disent mes parents sont fiers, mais ils ont peur, ils ne voulaient pas que je fasse ça, ils ont trop peur pour moi. Donc c'est plus la tristesse, parce que je vois le côté humain, et puis je me dis comment est-ce qu'on en est arrivé là, et est-ce que les choses vont changer ?
Alors, c'est vrai que les caméras assistent à des interpellations particulièrement musclées, vous en avez parlé. Comment les journalistes font-ils pour assurer leur sécurité ? Parce que les policiers évoluent armes au poing, et on voit toujours cette caméra qui se trouve derrière le policier qui, lui, est dans un moment d'extrême tension. On se dit, mais le journaliste, lui, il n'est pas protégé.
Alors, moi, pour l'avoir fait plusieurs fois, hein, parce que j'ai tourné beaucoup de séquences sur le terrain, on porte un gilet pare-balles, on porte un casque, pas d'armes évidemment, mais il y a une protection un petit peu supplémentaire, c'est-à-dire qu'ils font vraiment attention à ce qu'il ne nous arrive rien aussi. Et voilà, ils sont là aussi pour assurer notre sécurité. Mais c'est vrai qu'il y a des interventions sur lesquelles les policiers peuvent vous dire non, ne venez pas, c'est trop dangereux.
Voilà, vous n'êtes pas obligé de les suivre. En tout cas, vous ne pouvez pas obliger la police à les suivre en permanence.
Non, c'est eux qui vous disent OK. Bien sûr, ce sont eux qui décident. Oui.
Alors, vous allez suivre essentiellement Lara dans cette émission. Ouais. Voilà, c'est elle qui pilote l'équipe de la BAC de Creil. Comment les journalistes choisissent-ils les témoins qu'ils vont suivre tout au long du reportage ? Est-ce qu'il y a un casting qui est préétabli en amont ?
Non, pas du tout. Souvent, c'est la préfecture de police qui nous propose des personnes. Voilà, en l'occurrence, Lara, c'est la chef. Donc, ça s'imposait à nous. Elle a 20 ans de métier. Ouais. C'est une femme extraordinaire.
Oui, incroyable. Dans un monde très masculin, finalement, elle arrive à faire sa place et à se faire respecter, surtout.
Ah bah, totalement. Ouais. Voilà. Lara, moi, si elle était là, je fais tout ce qu'elle me dit. non, Lara, elle est impressionnante. Nous ne choisissons jamais.
Ouais. D'accord, vous choisissez
la police. La police choisit pour nous propose, voilà, vous allez suivre Lara, vous allez suivre. En général, on suit souvent le patron, quoi, celui qui dirige l'équipe.
Alors, ils sont force de proposition pour les témoins que vous allez filmer, mais est-ce que derrière, ils ont aussi un droit de regard sur le montage final de l'émission ? Est-ce qu'en contrepartie, ils doivent valider vos images ?
Non, pas du tout. Non, pas du tout. Nous, ils savent, on vient là avec notre caméra, on essaie de se faire le plus petit possible, vous savez, comme une petite souris.
Ouais.
on est là, on est petit, discret et on filme ce qu'on voit.
Mais pour c'est des raisons de justice, d'enquête, il n'arrive jamais que le policier vous dise à un moment donné, bon, ça, on ne peut pas le diffuser parce qu'il va y avoir une enquête, par exemple.
Non, ce qui est très fréquent, c'est qu'on soit obligé de flouter les visages. Ah oui. Alors voilà, ça, c'est très fréquent. C'est obligé, parfois, il y a des sujets où quasiment tout le monde est flouté. Il y a même des policiers qui veulent être floutés. Il y a aussi beaucoup de policiers qui ne souhaitent pas apparaître à l'antenne. Hein. Alors, ils sont floutés ou même ils ne veulent pas du tout qu'on les voit parce qu'ils ont peur justement des représailles. Ils ne veulent pas qu'ils soient identifiés. Mais sinon, à part ça, non, ils savent, quand ils nous donnent le droit de venir, ils savent que c'est pour faire un magazine et voilà, pour montrer la réalité de leur travail.
Et c'est pas forcément
en général, ils sont contents. Non, pas du tout. Ils sont contents souvent de montrer leur quotidien.
Ouais. Alors c'est vrai que le montage est assez particulier dans Enquête d'Action. On suit vraiment cet épisode comme une série quelque part. Et c'est vrai que tous les téléspectateurs qui ont regardé votre magazine, si on regarde la première minute, on va forcément tout regarder parce qu'on s'attache au personnage. Est-ce que le montage est pensé aussi comme une série quelque part, comme un épisode d'une série?
Non, pas comme une série, mais on essaye de tenir la promesse, enquête d'action. Voilà, donc et le jeu de mots, voilà, donc des enquêtes et de l'action. Donc s'il ne se passe pas grand-chose, on ne va pas vous mettre cette séquence-là, évidemment.
Ça arrive qu'il ne se passe rien, c'est vrai, ça arrive.
Non, c'est rare qu'il ne se passe rien. Non, c'est très rare qu'il ne se passe rien. Ouais. Il se passe toujours quelque chose.
Ça dure combien de temps?
D'ailleurs, on est souvent surpris. Un tournage dure en général un mois, deux mois, voire trois mois. Voilà. Donc il se passe toujours des choses, forcément. Et comme on est là tout le temps, donc mais parfois vous le voyez là dans le sujet, il y a les séquences s'enchaînent en une nuit. Vous suivez la BAC une nuit, vous avez quoi de faire un reportage d'une heure. Ah bah oui, évidemment.
Alors je vais vous poser cette question-là parce que les détracteurs de la police vont toujours s'émouvoir du fait que dans Enquête d'Action, comme dans les magazines de cop show, comme on a l'habitude de dire, il n'y a aucun dérapage de la police. C'est-à-dire que c'est vrai que on les voit toujours sous un angle plutôt bienveillant. Est-ce que ça, c'est voulu aussi? Est-ce que l'idée, est-ce que les dérapages n'existent pas lorsque vous filmez, ou bien est-ce que vous les mettez de côté pour ne pas les nuire et pour aussi peut-être pouvoir tourner d'autres magazines par la suite?
Non, alors vraiment pas. Ouais. Après, quand on est là, c'est un secret pour personne, on n'est pas en caméra cachée.
Oui, absolument. Donc,
les policiers savent qu'on est là. On est là, c'est un deal de départ, on est là, on filme. Et à ma connaissance, ça n'est jamais arrivé que des policiers nous demandent d'enlever une séquence.
Ok.
Ça, c'est à ma connaissance, encore une fois, après, nous ne produisons pas tous les sujets en interne. La plupart des sujets sont produits par des sociétés de production externes.
Oui, c'est ça.
On ne connaît pas tous les détails. Mais à ma connaissance, ça n'est jamais arrivé.
Alors, c'est vrai que les forces de police, on l'a dit tout à l'heure, sont régulièrement mise à l'épreuve, malheureusement, depuis l'activation du 49-3 par Elisabeth Borne. C'est quotidien maintenant, c'est-à-dire que les policiers sont dans les rues pour essayer d'épier les manifestants qui partent dans des manifestations sauvages et qui brûlent des poubelles. Est-ce qu'il est prévu que vous suiviez justement ces forces de l'ordre,
là, actuellement.
Voilà, ces forces de l'ordre qui sont aujourd'hui sur le terrain dans les manifestations contre la réforme des retraites.
Là, pour l'instant, c'est pas prévu parce que nous, on est un magazine, on fonctionne pas comme un journal.
Ouais.
Le journal, évidemment, peut faire ça. Nous, on est sur des sujets que l'on travaille vraiment en amont. Donc, si la situation venait à se pérenniser, ce serait possible. Mais on n'est pas un magazine d'actualité à proprement parler. Donc, on est vraiment un magazine d'investigation.
Ouais, donc
les sujets prennent du temps.
Vous n'avez pas vocation à rebondir sur l'actualité avec la police?
On peut, si je vous dis, si c'est d'actualité qui dure. Qui dure. Là, on pourrait. Mais là, en l'occurrence, c'est difficile parce que ce sont des sujets qui mettent du temps
bien
à être mis en place.
Alors c'est vrai que vous êtes un peu devenue la femme flic quand même de W9 avec ce magazine d'enquête d'action. Vous n'aimeriez pas aller plus souvent sur le terrain? Pourquoi pas aussi filmer?
Ça fait partie de l'évolution de ce magazine. Le magazine avant, il était en plateau. Je l'ai présenté avec François Pécheux tout au début, je ne sais pas si vous souvenez.
Exactement, il y a 18 ans.
Il y a longtemps. Et ensuite, j'étais en plateau toute seule. Ensuite, pendant de nombreuses années, le magazine était sur le terrain.
Ouais.
Donc toutes les semaines, je vivais avec ma petite valise et on était constamment sur le terrain.
Ouais.
Donc on a fait beaucoup, beaucoup de terrain où on filmait justement. J'étais moi-même aux côtés des policiers, j'ai participé à des interpellations à 6h du matin, enfin tout ça. Et ce qu'on a décidé de faire aujourd'hui, c'est de sortir, on appelle ça sortir, aller sur le terrain, quand la thématique s'y prête. Donc on l'a fait récemment pour un sujet sur le Champ de Mars.
Ouais.
Il y avait beaucoup de problèmes au Champ de Mars qui se sont un petit peu arrangés depuis. Donc voilà, nous partons, là on réfléchit à un sujet peut-être sur les hooligans, et donc, avec la possibilité de partir justement assister à un match. Donc on le fait quand ça se justifie réellement. Voilà. Si ça n'apporte pas de plus-value, ça ne sert à rien.
Et vous avez déjà eu peur dans le cadre du tournage de ces magazines?
C'est déjà arrivé? Oui. Ah oui.
Racontez-nous.
Oui. Non, je pense que le pire, c'est la vitesse. C'est la vitesse. C'est quand vous êtes dans des voitures de police et qu'il faut aller très, très, très vite pour une course-poursuite ou des choses comme ça. Et quand vous voyez le compteur monter, on n'est pas habitué, on l'habite tous les jours. Moi, le périphérique ou l'autoroute à 200 km/h, personnellement, je le fais rarement.
C'est compliqué.
Donc, donc effectivement, vous avez beau avoir confiance en la personne qui conduit, dont c'est le métier. On n'emmène pas large. En général, le cadreur et moi, on n'emmène pas large. On
est quand même vous accrochez à la poignée et puis...
Certaines interpellations aussi dans les cités. Je me souviens notamment d'un reportage à l'époque. Le journaliste s'appelait Sébastien Diaz, que je l'embrasse, qui a travaillé très longtemps pour Enquête d'Action. Nous allons dans une cité, je ne sais plus laquelle c'était, avec une brigade spécialisée dans les violences urbaines. Et on va interpeller un délinquant à 6h du matin. Donc, on arrive à 5h30 et on se gare. Au pied de la barre d'immeuble. Ouais. Et donc, on part avec bélier. Enfin, vraiment, j'avais le gilet pare-balles. J'étais vraiment hyper bien équipée. Et nous laissons Sébastien Diaz, le fameux, dans la voiture. C'était un oubli. En fait, on l'a laissé dans la voiture. Et je me souviens qu'il m'appelle et qu'il me dit « Je suis d'une voiture de police, en bas d'une barre d'immeuble. Il y a une interpellation qui va avoir lieu. S'il vous plaît, venez me chercher. » Donc, on a eu quelques situations cocasses.
Il a condamné les portes,
on est vite venu le chercher. Donc, parfois, on se fait un peu peur. Là, j'ai eu peur pour lui, ce jour-là. Après, quand vous êtes entouré par la police, bon, forcément, vous vous sentez en sécurité. Mais la vitesse, on ne s'y habitue pas. Non.
Bon, écoutez, j'espère que vous en avez beaucoup, des souvenirs comme ça, parce qu'on on va vous en demander tout de suite dans la dernière séquence de l'émission qui s'appelle « Pour le meilleur et pour le pire ». Alors, on va vous poser une série de questions qui brossent un peu plus votre parcours professionnel. Déjà, si je devais vous demander quel est votre meilleur souvenir de carrière, vous choisiriez lequel ?
Oh là là, c'est difficile.
S'il y a un souvenir comme ça qui vous vient à l'esprit.
Mon premier journal sur M6, c'était une expérience, un moment très fort. Voilà, j'ai fait le premier journal et je suis sortie et Thomas Valentin... m'a appelé juste à la sortie. Vraiment, je sortais du plateau. Il regardait, il m'a appelé 30 secondes après la fin du générique
pour me faire un petit débrief.
Pour me faire un petit débrief et me féliciter. Alors ça, c'était vraiment un moment très fort. Ouais. Quoi. Toute ma famille regardait.
D'ailleurs, vous n'avez plus de joker du 12-45 et du 19-45.
Pendant 7 ans, j'ai été joker. Ça veut dire que je présentais le journal pendant les vacances scolaires. Ouais. C'était une expérience extraordinaire, vraiment. Et je suis extrêmement reconnaissante que la chaîne m'ait donné cette opportunité. Et bon, j'ai deux jeunes enfants, je vous disais, qui ont 6 et 8 ans. Et les vacances scolaires, ça devenait un petit peu compliqué. C'était un peu difficile pour moi. Ça me faisait mal au cœur d'être absent pendant toutes les vacances scolaires. Donc, je préférais me retirer. Mais au bout de 7 ans, et j'avais déjà vécu cette belle expérience. Et peut-être que je reviendrai au journal un jour. Ouais. Mais là, c'était important pour moi d'être présente pour mes enfants pendant les vacances scolaires.
Auprès de vos proches. Est-ce que l'activité que vous avez actuellement, et on en parlait tout à l'heure, dans le cinéma, ça peut faire aussi partie de vos meilleurs souvenirs, quelque part, de carrière ?
Ah oui, bien sûr, bien sûr. Ben là, ça fait maintenant quelques années que je produis avec mon mari, Romuald Boulanger. On a produit ensemble le dernier film de Mel Gibson. Ouais. Ça, c'était aussi extraordinaire.
Avec Nadia Farès, du coup, que nous recevions sur ce plateau-là il y a quelques semaines.
C'est vrai, c'est vrai. Et quand on a su que Mel Gibson tournait dans notre film, venait à Paris pour tourner dans notre film, on n'y croyait absolument pas. Tant qu'il n'est pas là, on n'y croit pas. Et je me souviendrai toujours du jour où il a atterri à Paris et il nous a envoyé un petit vocal. Il disait « Hi, it's Mel
!»«
What the heck ?» Et on l'a sauvegardé, le message.
Incroyable.
On est allé le voir tout de suite à son hôtel. Je me souviendrai toujours de sa première poignée de main. Enfin bon, c'était fou et c'était une expérience magnifique. Et donc le cinéma, c'est magique aussi. Voilà, c'est comme la télé, différent, mais tout aussi magique.
Mais c'est incroyable. Il est sympa, Mel Gibson.
Il est très sympa.
C'est quand même très une sympa. Vedette internationale.
C'est un nounours.
Ouais.
Je vous assure, c'est un nounours. Il est extrêmement sympa. Ouais, un peu timide, parfois réservé, extrêmement cultivé. Très féru d'histoire européenne et non, il est enfin vraiment, nous on a eu une expérience extraordinaire avec lui, vraiment.
Une dernière question que je voulais vous poser, aujourd'hui c'est vrai que vous êtes le visage d'Enquête d'Action, est-ce qu'il y a une autre émission, un autre magazine que vous aimeriez incarner? Est-ce que vous avez un appétit particulier pour un autre format sur le groupe M6?
Alors, sur le groupe, je trouve que vraiment, je ne vous dis pas ça pour faire plaisir à qui que ce soit, mais je trouve que la qualité des magazines d'investigation, d'information, est très élevée dans le groupe M6.
Oui.
Donc, n'importe quel magazine dans le groupe M6, pourquoi pas, me ferait plaisir un jour, parce que je trouve qu'on a vraiment atteint un niveau d'exigence vraiment dont je serais fière, dont je suis fière, je serais fière d'incarner ces magazines. Je suis aussi joker de 66 minutes.
Oui, exactement.
Quand Xavier Demoulin est en vacances. Donc ça, ça c'est super aussi parce que c'est un magazine qui est complètement différent, qui est très varié.
Ouais.
D'ailleurs, vous me retrouverez pendant les vacances de Pâques.
Oui.
Et voilà, on a cette chance d'avoir tous ces magazines très variés dans le groupe. Donc, et puis c'est un plaisir de pouvoir passer de l'un à l'autre, comme j'ai fait avec le journal. À l'époque 100% Mag, maintenant 66 minutes. Je sais pas, c'était passerelle super intéressante.
Et vous avez fait un peu d'informations en continu d'ailleurs. C'est vrai que ça a beaucoup bougé le paysage aujourd'hui. Ah oui. Vous étiez sur iTélé.
Enfin, à l'époque, voilà. C'était iTélé.
Exactement. Maintenant, c'est CNews. Ça vous manque un petit peu cet univers de l'information continue, cette adrénaline du direct ou pas?
Je l'ai retrouvé au journal. Le journal, c'était vraiment. C'était la même chose, puissance 1000.
Oui.
L'adrénaline, oui, forcément. Il y a toujours un petit quelque chose. C'est très spécial de travailler au sein d'une rédaction et de faire du direct tous les jours comme ça, plusieurs fois par jour. On crée des liens très, très forts. Ouais. Il y a une adrénaline extrême. Je me souviens une fois, j'ai interviewé une amie dans le journal. Je la connaissais personnellement, c'est le hasard, mais je la connaissais personnellement. Et elle m'appelle à la sortie du journal et elle me dit « Mais tu es folle, quel métier de taré, c'est horrible !» C'est Dorothée Pousseau, une star du doublage. Elle me dit « Mais c'est horrible !» Donc c'est vrai que c'est un métier spécial quand même. Il y a une adrénaline qui est très très forte et qui est très excitante.